Le doux son de nos pas dans la neige. Le cliquetis d'un mousqueton avant de s'élancer sur une paroi. Les discussions matinales d'un groupe de randonneurs au départ d'un refuge. Ou encore, le bruit du torrent dans la vallée. Ça y est, vous êtes à peu près situé ? Alors bienvenue dans les Pyrénées. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis béarnaise. Je tiens à le préciser car c'est une des raisons qui m'amène à avoir créé Latitude Pyrénées. Dans ce podcast, toutes les deux semaines, je vais à la rencontre de ceux pour qui les Pyrénées ont un goût si particulier. Sportifs, auteurs, professionnels de la montagne, passionnés, réalisateurs, aventuriers, des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon qui nous partagent leur vision et leur histoire. À travers des échanges d'une trentaine de minutes, mon but est de vous faire découvrir ce massif de plus de 450 km qui s'étend de l'Atlantique à la Méditerranée, partagé entre la France et l'Espagne. Mais j'espère aussi vous inspirer au travers des récits de mes invités qui ont tous quelque chose à nous enseigner. Ici, on parle donc de montagnes, mais pas que. Les montagnes sont une porte d'entrée pour questionner le rapport que l'on entretient aujourd'hui en tant qu'humain avec notre environnement et nos écosystèmes. C'est également une porte d'entrée pour évoquer des choix de vie, de carrière parfois, qui emmènent vers les montagnes, mais également regarder de plus près ce qui se passe dans ce territoire, où culture et patrimoine sont bien ancrés. Dernière petite chose, si vous aimez Latitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
C'est que la disparition des espèces, elle est entre nos mains aujourd'hui. On a la capacité de les faire disparaître. C'est nouveau d'avoir la capacité et surtout d'avoir pris conscience. Et le jour où on en prend conscience, on devient responsable. Si ça disparaît, alors qu'on savait que ça pouvait disparaître et on savait comment il fallait faire pour pas que ça disparaisse, on a des comptes à rendre pour les générations suivantes.
Mon invité du jour a passé 30 années de sa vie à lutter pour réintroduire dans les Pyrénées une espèce que l'homme avait fait disparaître. Un animal fascinant qui aujourd'hui, grâce à cet homme et un travail collectif, repeuple les vallées. Cet animal, c'est le bouquetin. Avant de devenir protecteur de la faune sauvage, Jean-Paul Cramp a été chasseur. Vous pouvez penser à une incohérence, mais je vous assure qu'en écoutant cet épisode, vous comprendrez mieux que tout n'est pas blanc ou noir dans la nature. On parle ici de nature sauvage, mais aussi de nature humaine. Jean-Paul Cramp est de ces personnages qui ont tant à transmettre, car il essaie d'avoir un regard éclairé sur ses comportements passés et présents, sur son milieu social et tout simplement sur sa vie. Il a presque une approche sociologique dans sa manière de raconter son histoire. D'une vie de berger dans une ruralité qui n'existe presque plus aujourd'hui, à son entrée comme garde dans le parc national des Pyrénées, jusqu'à de longues années à protéger une espèce menacée, il y a de quoi disserter. Dans cet épisode, Jean-Paul Cramp nous raconte l'histoire du bouquetin ibérique qui avait disparu il y a un siècle de nos montagnes et qui aujourd'hui compte 500 individus. Mais il nous parle aussi surtout du rapport que l'homme entretient avec la nature au fil des époques et de comment nous avons tous un pouvoir pour agir sur notre environnement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bien, c'est parti. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Anne-Sophie.
Comment allez-vous ?
Oh, je vais bien. Très bien. Même.
Avec ce beau soleil.
Oui, il y a toutes les conditions pour aller bien. Aujourd'hui, à Sainte-Castère, à l'Aubagnas, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez me dire exactement où on est là ?
Ici, on est sur un petit coin très mignon qu'on appelle Sainte-Castère, avec une très vieille chapelle, très ancienne. Je ne saurais plus dire de quel siècle elle est, mais elle est très ancienne. Et elle est un petit peu à l'écart, bien qu'enclavée par les routes et les urbanisations. Elle est un petit peu à l'écart, et le fait qu'elle soit un petit peu surélevée comme ça... D'ici, on ne voit que le sommet des montagnes et on a l'impression d'être en pleine nature. C'est un endroit assez tranquille, assez reposant et charmant, pour tout dire.
En face, il y a des montagnes qui signifient quelque chose pour vous et à gauche aussi.
Oui, alors c'est tout près de chez moi, quelques centaines de mètres. Et c'est vrai que ce lieu et toute la zone d'Argelès ici est un lieu stratégique dans la mesure où on est sur un carrefour de vallées importantes comme celle du Gave de Pau, du Gave de Cotteret, le Gave d'Estaing, le Gave d'Azun, donc tout ça ce sont des vallées importantes qui chacune ont leur particularité. Et comme je les visite un petit peu à tour de rôle, je suis pas mal placé pour donc organiser mes balades. Et puis je suis en face du Haut-Takam, qui est la montagne où j'ai été berger jusqu'à l'âge de 21 ans.
Alors, on va en parler. Mais je commence toujours avec cette question d'abord pour mes invités. Je leur demande qu'est-ce que ça signifie pour eux, les Pyrénées.
Ah. Les Pyrénées, pour moi, c'est beaucoup, oui, parce que j'ai vraiment voué ma vie, je peux dire. Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que, surtout, ne chantons pas, ne crions pas, ne disons pas, ne murmurons pas, les Pyrénées sont à nous, parce qu'on va les faire beaucoup rigoler. Elles sont là depuis 65 millions d'années, elles ont eu le temps de voir passer bien des changements climatiques, et nous, d'après ce qu'on m'a raconté, on est là au mieux depuis 15 à 20 000 ans. Et encore pendant plusieurs milliers d'années, on n'était que quelques groupes égarés dans des vallées complètement sauvages. Donc l'occupation un peu sérieuse de ces vallées par l'homme, elle remonte à quelques siècles tout au plus, un ou deux millénaires maximum. Alors voilà, les Pyrénées ne sont pas à nous, c'est nous qui sommes aux Pyrénées. Et moi je dis vraiment, je suis aux Pyrénées. Voilà. Et être aux Pyrénées, ça a deux sens. C'est appartenir aux Pyrénées et c'est aussi être en tant que exister aux Pyrénées. Voilà. Donc j'espère être les deux pleinement. Quoi.
Vous avez eu, vous le dites, toute votre vie dans les Pyrénées. Vous avez été berger jusqu'à 21 ans. Et puis ensuite, il y a une toute autre carrière qui a commencé. Mais si d'abord, on peut parler un peu de votre enfance dans les Pyrénées et du coup, vos années en tant que berger. C'était comment ?
Alors c'était extraordinaire et c'était alors c'est un truc que je souhaiterais à tous les enfants du monde hein, parce que on apprend tellement de choses quand on est jeune paysan en montagne. Alors c'est dur, on lit pas beaucoup, on va pas trop à l'école peut-être, enfin le minimum demandé en tout cas, mais on apprend tellement de choses en gardant les vaches ou les brebis. Et puis les travaux de la ferme eux-mêmes vous amènent à un tel contact étroit avec ce qu'est la vraie nature, ça, qui impose ses lois, ses règles, et qui vous accorde ses petits cadeaux, mais qui vous montre aussi que vous avez beaucoup d'efforts à faire, et puis qu'il faut profiter de la nature et puis s'en défendre. C'est des notions qui sont toujours un petit peu mal comprises par les citadins. Donc quand on a une enfance paysanne dans les Pyrénées, et quand on arrive à l'âge adulte, on sait très bien ce que c'est que la nature, sous tous ses aspects. Quoi. C'est une culture de base que je vois manquer à beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas eu cette chance. Et je crois que c'est difficile, le centre d'une ville, même si elle est moyenne ou pas très grande, d'avoir cette réalité palpable quoi, qu'on a pu avoir. Quoi. Donc après, c'est aussi comment dire, une vie de village qui est aussi une autre époque, révolue complètement. Je m'en suis rendu compte tardivement, mais c'était une époque où on était encore... Michel Serres, le philosophe que j'ai pu connaître et avec qui j'y ai pas mal de relations amicales sur la fin de sa vie, m'a fait comprendre comment cette époque-là, de mes 20 premières années, était ce qu'il appelait, lui, la fin du néolithique. C'est-à-dire la fin d'une économie agro-pastorale qui s'était installé dans les montagnes avec cet unique système économique. Ça s'est écroulé d'un seul coup, au cours du XXe siècle. Donc moi, naissant en 1950, j'étais déjà sur la fin de cette histoire-là, mais avec suffisamment de positionnement pour en comprendre un petit peu tous les aspects, y compris sociétaux, parce que la vie d'un village comme ça, c'est incroyablement structuré, il y a beaucoup d'entraide, ça peut être très étouffant aussi par certains aspects, mais vous vous sentez encadré, c'est très religieux aussi, la religion catholique est très prégnante, et tout ça, ça s'est effiloché, ça s'est déstructuré très, très brutalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui je comprends ce qu'a voulu m'expliquer Michel Serres. En sortant de ce milieu à l'âge de 21 ans, j'ai franchi comme sur une planche en bascule, j'ai basculé de l'autre côté, dans le monde moderne où est arrivé Internet, où moi je suis rentré dans un parc national qui était un concept totalement nouveau, qui justement quelque part illustrait ce changement d'époque, hein, puisque brusquement était arrivé à la logique de tout le monde qu'il fallait protéger l'environnement, et notamment en créant des parcs nationaux.
Et justement, c'est quoi un parc national ? Je trouve que c'est une notion, on en parle souvent, parc national, mais c'est quoi concrètement un parc national ?
Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui évolue comme le reste. Dans le concept de base, c'est un concept qui a été inventé par les Américains. Inventé par les Américains parce qu'ils ont, ils ont eu sous les yeux des catastrophes incroyables, enfin en tout cas suffisamment tangibles et spectaculaires pour prendre conscience. Par exemple, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on avait un siècle à peu près éradiqué de l'Amérique du Nord 70 millions de bisons. Il n'y en restait plus que quelques centaines. Enfin, on a eu comme ça sous les yeux ce que l'homme était capable de faire en très peu de temps parce qu'il avait découvert les armes à feu, parce qu'il avait découvert la locomotive, ses trains, tout ça. Bon, bref. Et on s'est dit, c'est la vision de ces catastrophes qui a fait penser à certains hommes précurseurs qu'il fallait mettre en place des mesures de protection. Et les premières mesures qui ont été mises en place, c'est les parcs nationaux américains. Donc Yellowstone en particulier, en 1842, de mémoire, je crois. Donc les parcs nationaux français se sont inspirés de cette image-là, avec des contextes un peu différents, parce que autant les Américains s'installaient sur des terres qu'ils considéraient à eux, qui en tout cas étaient à l'État, on va dire, donc ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, sans trop demander l'avis des Amérindiens, qui étaient les vrais propriétaires du site à l'origine, bien sûr. Et dans les territoires européens, au contraire, on avait affaire à des fonciers qui étaient soit privés, soit appartenant à des collectivités comme les communes de montagne. Donc évidemment, il a fallu moduler les règles pour appliquer quand même les grands principes de protection qui restent de mise, mais toujours en évolution. Aujourd'hui, on essaie de faire entrer dans ce concept de protection une couche supplémentaire de développement local avec des visions économiques, avec tous les dangers que ça comporte. Puisque quand on fait rentrer des notions d'argent dans des notions d'environnement, le danger est grand d'aller trop loin dans l'exploitation. Et en tout cas, bon, aujourd'hui, ça marche toujours, même si le parc que je vois aujourd'hui, le parc national des Pyrénées que je vois aujourd'hui, manifestement n'est plus tout à fait le même que celui que j'ai connu en 1973, date à laquelle j'y suis entré.
Justement, donc vous rentrez, vous quittez cette vie de berger, vous rentrez en 1973 au parc national des Pyrénées, et vous allez vous aussi participer à la protection, enfin on va dire plutôt la réintroduction d'un animal qui avait disparu depuis très longtemps dans les Pyrénées. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel est cet animal?
Ce qui me gêne là, c'est qu'on fait un bond dans l'histoire qui est quand même très important, parce qu'entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses à mon niveau. Donc,
Dites-moi.
Ben oui, je vais vous raconter, parce que ça serait un peu trop, comment dire, tronquer l'essentiel de la démarche, parce qu'on n'arrive pas à des idées comme ça de but en blanc, quoi. C'est que manifestement, l'idée, si je l'ai eue en 1980, en fait, c'est en 1980 que je me suis dit, ben, bon sang, c'est un projet que le parc doit mettre en place.
Donc cet animal, juste pour qu'on... parce qu'on allait y revenir, mais comme ça, c'est le bouquetin.
Le bouquetin des Pyrénées, pardon, on ne l'a pas nommé. Et oui, mais on oublie toujours l'essentiel.
C'est ça.
Le bouquetin des Pyrénées, donc en 1980, parce que je découvre une photo d'un des derniers bouquetins de la vallée d'Ordessa. Ça fait chez moi un déclic qui me fait dire voilà un animal qui n'a aucune raison de ne pas exister aujourd'hui dans les Pyrénées. Donc il faut soit protéger ce qui reste, soit en réintroduire. Et petit à petit, de là est né ce projet. Et je n'ai cessé d'embêter, de claironner tout ça autour de moi, jusqu'à convaincre le Parc national des Pyrénées, 10 ans plus tard quand même. Donc 10 ans d'insistance. Et après, c'est vrai que le Parc national des Pyrénées, en tant qu'institution, s'est impliqué de manière durable. Et Dieu sait s'il y a eu des moments de calme et de retour en arrière. Mais pour en arriver là, là on était en 1980, moi j'étais rentré au parc en 1973. Donc, entre-temps, je suis passé d'un berger... Alors, je le dis avec d'autant plus de facilité que c'est vraiment, comment dire... Tant pis si c'est de moi qu'il s'agit, mais j'étais un berger chasseur. Ma passion la plus forte, c'était la chasse en montagne. Il faut comprendre, et beaucoup d'oreilles qui vont entendre ces mots vont se dire, bon sang, mais qu'est-ce qu'il nous raconte?
Il faut qu'elles écoutent jusqu'à la fin, justement,
voilà. Donc, quand on est paysan de montagne et qu'on est passionné par la nature sauvage, on en arrive très facilement et logiquement à chasser. Quand on est paysan surtout. Il y a plus de raisons à cela. Quand vous êtes paysan, la mort des animaux, c'est quelque chose que vous côtoyez quotidiennement, je dirais. Par exemple, on vous fait tuer le cochon à 14 ans. Vous le tuez vous-même, parce qu'il faut le manger, le cochon. Il a été élevé pour ça. Il faut bien le tuer. C'est une sorte de geste initiatique. Où on ne prend pas plaisir, mais ça fait, comment dire, ça fait partie de l'activité. Les agneaux que j'élevais, je les descendais au marché de Lourdes le jeudi, c'était pour les vendre et pour en faire des côtelettes, que je sache. Pourtant, Dieu sait qu'ils étaient mignons. Ce qui fait que quand vous abordez la chasse elle-même, le fait de tuer l'animal, vous ne le voyez pas au sens de la sensiblerie. Vous le voyez plutôt comme la capture de quelque chose qui est beau et que vous voulez vous approprier. C'est pas pour manger, c'est pas pour le vendre, c'est parce que voilà, vous avez une passion pour ces animaux-là. Et la manière la plus immédiate de vous en approcher, c'est de les tuer avec un fusil. Et donc j'ai fait ça pas longtemps, 3 ou 4 ans quand même, assez pour pouvoir en parler, comment dire, ouvertement aujourd'hui. Et quand je suis rentré au Parc National, j'ai découvert d'autres concepts, et notamment ce problème de protection de la nature. J'ai découvert par exemple que il y avait des espèces qui étaient redevenues nombreuses, comme l'isard par exemple, mais parce qu'on avait créé des réserves. Sinon la chasse les aurait totalement éliminées dans les années 50. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que le fait de changer de milieu social et d'environnement vous fait changer complètement de mode de pensée, quoi. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et je crois que ça touche tout le domaine qu'on aborde aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'on croit être notre volonté profonde, c'est simplement notre contexte social et environnemental qui nous fait penser comme ça. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'entre cette année de 1973, je suis devenu protecteur de la nature, moi le berger chasseur.
J'aime bien le résumé, non mais c'est génial. Ouais.
Mais on était nombreux comme ça à l'époque, les premiers gardes du Parc national des Pyrénées, on était tous de cette veine. Je parle de veine au sens filon.
Hein. Parce que vous ne connaissiez que ça aussi.
Mais oui, mais vous savez, la montagne on la connaissait. Hein. Ouais. Et puis on avait les cuisses et les mollets pour y aller. Et on savait comment se diriger dans le brouillard et éviter les ponts de neige. Vous arrivez avec ce bagage en quelque sorte, et puis vous tombez dans un milieu, vous rencontrez des enseignants, vous rencontrez des chercheurs, vous rencontrez... C'est le grand avantage des parcs nationaux à l'époque, c'est que ça vous amenait au contact de toutes les couches sociales susceptibles d'être intéressés par la montagne, et de sait qu'elles sont diverses et variées. Et en côtoyant les scientifiques qui font des études sur la géologie, ou sur l'évolution des glaciers, ou sur la disparition de tel ou tel insecte, vous découvrez un monde que manifestement vous ne pouviez pas aborder dans votre milieu social d'origine. Et ça vous transforme, tout simplement. Et il ne faut pas avoir honte de ça, parce qu'on est fait pour être transformé, on est transformable. Et donc j'en suis arrivé petit à petit. J'ai changé de camp complètement, quoi. C'est-à-dire que pour moi, la chasse, oui. Enfin bon, est-ce vraiment nécessaire? Ça l'est quelquefois pour certaines espèces. La plupart du temps, ça ne l'est pas. Et puis, on était rare à chasser avant. On est devenu très nombreux. Manifestement, les espèces sauvages ne peuvent pas résister à tant de pression. Donc, oui, on devient pas anti-chasse, mais on devient protecteur. On change un peu de bord, quoi, en tout cas.
Donc, c'est comme ça que vous êtes venu protecteur du bouquetin ibérique, du coup?
Alors, le bouquetin ibérique, voilà, comme j'étais devenu sensible à tout ça, le jour où on m'a mis devant une photo du dernier bouquetin ibérique d'Ordessa, c'était un professeur de Bagnères, Bernard Clos, professeur d'espagnol. Une photo incroyable, c'est juste la tête d'un mâle qu'il a été photographié dans le canyon d'Ordessa après avoir passé je ne sais combien de nuits blanches à l'attendre.
Vous n'aviez jamais vu, vous, cet animal?
Non, puis on l'entendait parler, on savait qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, mais on ne savait vraiment pas ce que ça pouvait être. Et donc, ça a été une sorte de révélation. Et puis, cette photo, elle était à la fois rudimentaire, simple, mais très, très parlante. On voyait un animal surgir du passé, comme le bœuf musqué, comme le rhinocéros laineux, enfin, vous voyez, comme l'ours. C'était une image du passé qui remontait comme ça, et ça m'a vraiment touché profondément. Et de ce jour-là, je n'ai eu de cesse que de convaincre autour de moi. Je n'étais pas tout à fait tout seul, il y avait quelques spécialistes, quelques naturalistes qui avaient déjà l'idée en tête, mais ce n'était pas clairement formulé, on va dire.
Pourquoi c'est dur de protéger une espèce sauvage? Parce que du coup, vous le disiez, vous avez mis 10 ans à convaincre des gens de réintroduire cet animal dans les Pyrénées. Pourquoi c'est si dur de protéger le sauvage?
Il faut bien comprendre tous les aspects qui ne sont pas... Ce n'est pas des aspects matériels des choses, c'est des aspects... comment dire? Déjà, le bouquetin des Pyrénées, il y avait longtemps qu'il n'existait plus dans les têtes des Pyrénéens. Les Pyrénéens l'avaient oublié complètement. Donc, vous lui parliez de cette espèce, c'était à peu près comme parler du rhinocéros laineux ou de tant de bêtes qui ont existé ici dans le passé, quoi. Donc il y avait cette première étape de faire exister la bête en tant que... de faire exister le vide de son absence, surtout. De le rendre matériel, quoi. Donc ça, c'est vite dit comme ça, mais pour rendre les choses concrètes, c'est pas si simple. Et quand je disais aux gens, mais vous savez, c'est comme si l'Isard que tout le monde connaît aujourd'hui, un jour, parce qu'on l'a fait disparaître, les gens de Luz, de Cotteret, d'Arès, ne sachent plus ce qu'était un Isard. On en est à ce stade-là. Donc vous aviez beau montrer qu'on avait trouvé des crânes, qu'on avait vu les peintures rupestres des empires historiques, ça restait flou, vague, et il a fallu, comment dire, donner de la matière tangible à tout ça. Donc ça prend du temps, et c'est là où les scientifiques, les historiens ont pu apporter leur note, et c'est là aussi où on voit l'importance des écrits qu'on peut retrouver, comme les quelques observations rarissimes déjà que pouvait faire Russell, Henri Russell, en se baladant du côté de la Maladetta, où il a rencontré un jour des bouquetins, et puis il l'a raconté. Quoi.
Et qu'est-ce qu'il a comme particularité, cet animal ?
Ah, c'est un animal qui... Sa particularité, c'est que c'est un animal des rochers, des falaises, en termes d'habitat. En termes d'impact sur l'homme, c'est son esthétique. Déjà, le fait de voir un animal si gros, 100 kg pour les gros mâles, évoluer dans des falaises aussi verticales, ça n'est possible qu'au prix de prouesses et de mouvements, de déplacements qui tiennent de la magie. Quoi. Donc quand vous avez ça sous les yeux et que vous voyez par exemple la silhouette se dresser sur une crête, vous comprenez que même le Magdalénien, il y a 15 000 ans, il ait pu de mémoire retracer ça au fond de sa grotte, de mémoire, parce qu'il n'avait pas une photo sur Internet pour s'inspirer. Et qu'il a, d'un simple trait de charbon, retracé d'une manière incroyablement fidèle l'esthétique globale de cette bestiole. Donc quand vous arrivez à montrer déjà des photos, vous frappez davantage l'imagination des gens à qui vous vous adressez. Quoi. Ce qui montre bien comment on fonctionne. On ne fonctionne pas sur des mots, on fonctionne sur du toucher, sur du goût, sur du...
Même vos émotions aussi.
Sur des émotions, voilà. Donc les émotions, elles passent par l'image, elles passent par le toucher des fois, mais déjà l'image fait beaucoup.
Alors quand on arrive en 2014, du coup, vous parvenez à faire réintroduire les premiers bouquetins dans les Pyrénées, à Cotteret. Comment ça s'est passé, cette réintroduction? Comment vous avez fait? Et il y a eu ce long parcours de 10 années, mais du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Oui, alors on ne peut pas aller directement au moment du lâcher, parce qu'il s'est passé tellement de choses décisives et, comment dire, indispensables, des sortes de haies à franchir pour arriver à ce stade ultime en quoi consiste la libération des animaux. Déjà, dans cette période-là, dans les Alpes déjà, à partir d'un noyau sauvé in extremis dans le Grand Paradis, on avait commencé à réintroduire des bouquetins en France. Donc on avait déjà un aspect concret des possibilités avec une espèce presque similaire, on va dire, qui est l'ibex. Puis par contre, la donnée différente, c'est que les seuls bouquetins des Pyrénées qui restaient, ils étaient en Espagne. Mais en Espagne, pas dans les Pyrénées, en Espagne, dans les autres massifs montagneux espagnols, parfois s'éloigner. Et puis, on peut le dire de manière très raccourcie, avec très peu d'empressement du côté des Espagnols pour voir le joyau de leur faune sauvage, être exporté en France, qui peut-être ne le méritait pas tellement. Donc, voilà, ce qui a pris tant de temps, c'était d'abord qu'il a fallu convaincre les Espagnols notamment, de céder quelques bouquetins. Alors pour ça, il y avait des arguments scientifiques, des uns qui disaient « c'est pas les mêmes que ceux qui étaient dans les Pyrénées, c'est une autre espèce, vous n'avez pas le droit d'introduire une espèce différente ». Notion importante, hein, quand on met une espèce qui n'a jamais existé, on fait une introduction. On pourrait ici dans les Pyrénées mettre tout un tas d'ongulés sauvages de montagnes, de l'Altaï ou des montagnes rocheuses, ça marcherait très bien, parce que l'habitat leur conviendrait. Par contre, la déontologie implique qu'on ne remette en place que ce que l'homme a fait disparaître. Dans une époque historique en plus, donc c'est tout à fait le cas du bouquetin. Donc argument scientifique d'un côté, argument économique de l'autre qui n'était pas tellement avoué, mais chez eux le bouquetin est une pièce économique dans la mesure où les trophées sont vendus chèrement aux chasseurs étrangers. Et donc tout ça, il a fallu abattre ces difficultés les unes après les autres. Alors dans tout ça, le jour où on arrive à... au lâcher, déjà beaucoup d'organismes du côté français se sont coalisés pour des programmes d'ensemble, on va dire. Et puis ce qui a beaucoup changé la donne entre-temps, c'est que de 1980 à 2014, vous avez eu la chute du mur de Berlin, par exemple, c'est-à-dire que les frontières européennes se sont mises un petit peu en pointillé, à tel point qu'on a été capable, en 2010, les ministères français, espagnols, andorrans, n'oublions jamais que l'Andorre est un pays pyrénéen, se sont mis d'accord pour montrer un programme qui s'intitulait, et on voit toute l'habileté des politiques quand il faut être efficace, programme de valorisation de la biodiversité pyrénéenne. Donc, vous voyez...
D'un coup, il y a eu un shift.
L'éventail énorme de ce que ça peut accueillir, mais ça accueille aussi bien les espèces en danger, en voie de disparition, ou les espèces à réintroduire, comme le cas du bouquetin. Mais ce qui était nouveau, c'est que trois pays étaient d'accord pour œuvrer en commun pour le bien-être de ces espèces-là. Du coup, du jour au lendemain, l'opposant principal qui était l'État espagnol est devenu le protagoniste le plus impliqué dans le projet. Autant dire que les choses ont été très vite après, parce que des bouquetins à capturer en Espagne, il y en avait beaucoup. On savait comment faire parce que les Alpins nous avaient montré comment faire. Et on a trouvé de l'argent très facilement parce que tout le monde en voulait des bouquetins. Ça fait de mal à personne, même pas aux bergers, puisque ça va dans les rochers et que les brebis n'y vont pas. Donc c'est joli, ça plaît aux écoliers des écoles. Si ça plaît aux écoliers, ça plaît à leurs parents. Bref, les portes sont ouvertes d'un seul coup, d'un grand. Et alors qu'il avait fallu 30 ans pour les entrouvrir.
C'est paradoxal quand même.
Mais non, mais ça montre une fois de plus que toute l'importance des aspects sociétaux et de notre manière d'aborder les choses au niveau culturel, quoi. Parce que imaginer qu'un siècle plus tôt on fasse la même chose, qu'on dépense beaucoup d'argent pour une espèce comme ça, non. Un siècle plus tôt, on ne se posait même pas la question de savoir s'ils allaient disparaître ou pas.
Ouais.
Et c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes. Enfin, en tant qu'être humain, on n'a pas évolué. C'est le contexte social. Ce qui est dommage, c'est que c'est la vision de la destruction qui fait prendre conscience de la nécessité des mesures de protection. On pourrait les anticiper, on sait les anticiper aujourd'hui. Et on voit bien comment on continue à aller dans le mur alors qu'on sait. Mais non, il faut toucher du doigt la catastrophe pour prendre des mesures, essayer de les réparer.
Et d'où l'importance aussi de jamais baisser les bras, parce que vous auriez pu au bout d'un moment vous décourager aussi et vous dire, à quoi bon, la personne ne m'entend,
alors,
je n'y arriverai pas.
Ce qu'il faut rectifier, c'est qu'on part d'une démarche très personnelle vers une démarche qui devient très collective.
Bien sûr. Hein,
à la fin, comment c'était la phrase de je ne sais plus qui, par un prompt renfort, ils furent nombreux, enfin je ne me rappelle plus. disons qu'au fur et à mesure que le projet avançait, non seulement les renforts étaient nombreux, mais... il y avait beaucoup de candidats pour apparaître sur la photo.
Oui, aussi l'aspect communication aussi autour de parfois.
Communication, et puis on veut en être, quoi, après. Mais c'est très bien, ça ne m'a pas gêné. Mais, comment dire, voilà, on peut se sentir seul à un moment donné, et puis être très nombreux après. Quant à l'insistance, à la persévérance, j'ai cherché mon mot, dans la mesure où ça vous plaît, où ça vous passionne, ce n'est pas un effort à faire. À aucun moment, l'envie d'abandonner ne vous touche. Parce que plus ou moins vous voyez que ça avance quand même, et puis vous voyez que c'est faisable surtout, que tout est là, que l'habitat est là, que les animaux sont pas loin, et qu'à côté dans les Alpes ils réussissent, ça marche très bien, donc on est plutôt incité à continuer qu'à baisser les bras. Mais ce qui est important aussi, c'est de tomber à une époque, mais il n'y a pas de hasard dans tout ça, hein, où c'est un parc national qui peut porter ce genre de projet. Parce que là vous voyez le complémentaire des sujets, comment un organisme qui a été surtout fait pour garder un espace, les espaces sont des habitats, donc des habitats d'espèces. Rien de plus flagrant qu'un habitat d'une espèce vide, quoi. Quand vous êtes un peu connaisseur, vous voyez le vide, vous voyez ces falaises vides, là où il devrait y avoir des animaux qui gambadent, quoi.
Et pas que des humains qui marchent.
Il n'y a pas que des humains qui marchent. Il suffit d'avoir un petit peu de culture, un petit peu de connaissance pour se rendre compte que si vous vous baladez en forêt et que vous n'entendez pas d'oiseaux, ça doit vous crier aux oreilles. Le silence doit devenir assourdissant, quoi.
Ouais.
Hein, comprenez, ça passe par un minimum de culture. Parce que pour beaucoup de gens, se balader dans une forêt silencieuse, ça peut ne pas choquer. Mais pour un ornithologue, il va hurler de désespoir.
Ouais.
Voilà. Et il faut chercher quelles sont les raisons. Il y en a toujours... de bonnes à trouver.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, ce jour-là de 2014, où il y a, du coup, la réintroduction après 30 années de persévérance, et il se passe ça sous vos yeux?
Oui, mais que vous dire, c'est un grand moment, hein, c'est un grand moment qui, qui se vit d'autant plus intensément que les dernières longueurs ont été épuisantes. On avait l'impression que tout se liguait au niveau des difficultés administratives. Enfin, il y a tout ce qui était imaginable comme empêchement a surgi dans les dernières semaines. Quoi. Alors que, enfin, c'était d'autant plus désespérant que tous les voyants étaient ouverts et on avait l'impression que tout se mettait en travers pour que ça ne se fasse pas. Donc j'étais au bout du rouleau, tout simplement. J'étais complètement épuisé, émotionnellement et nerveusement, et pendu au téléphone du matin au soir avec les correspondants espagnols qui, du coup, étaient devenus parfaitement les plus combatifs, les plus actifs dans l'histoire. Je parle surtout de l'équipe du ministère espagnol. Quand enfin on voit les caisses déposées sur la pelouse du Clot au pont d'Espagne, et que surtout on les voit s'ouvrir, on va bondir ces animaux vers les Pyrénées, on a l'impression de vivre un grand moment historique. C'est une espèce qui revient après un siècle d'absence. Et puis, alors ce mélange de soulagement, ouf, ça y est, ça démarre, de satisfaction, mais c'est enfoui encore parce que ça n'ose pas remonter. Il y a surtout la peur que ça échoue. Mm. Après, tous ces animaux, on les prenait dans des sierras où il n'y avait pas de neige, on les mettait dans des Pyrénées où, je ne dis rien, où il pouvait neiger beaucoup. Et cette année-là, il a beaucoup neigé au point d'Espagne. Il est tombé 5 mètres de neige cumulée au point d'Espagne. Donc, pendant 2 ou 3 ans, je suis resté sur un sentiment d'inquiétude pourvu que ça marche, quoi, pourvu que ça marche. Et non seulement j'ai été assez vite rassuré, mais j'ai été comblé parce que j'ai vu un animal extrêmement puissant, dominant complètement son espace pyrénéen comme s'il ne l'avait jamais quitté. Et là, j'ai compris au passage ce que ça voulait dire, que la mémoire enfouie dans l'ADN d'une espèce, quoi. Évidemment que les Pyrénées les avaient fréquentées pendant 80 000 ans, donc il devait bien rester quelque chose dans la génétique de ces bestioles. Mais à ce point-là, et encore tous les jours, c'est pour ça que j'y vais tous les jours, parce que j'ai tous les jours la preuve que cet animal est fait pour vivre là, et qu'il y est bien, qu'il s'y développe parfaitement, et qu'il fallait faire ça. Donc je laisse la satisfaction remonter à la surface de plus en plus. J'essaie d'en faire profiter les gens autour de moi qui réalisent, beaucoup de gens réalisent, et pas forcément dans les couches sociales où je les aurais cherchées, mais ça, on se trompe toujours là-dessus. Et donc je fais des films, je fais des conférences, j'écris des livres, et notamment un livre dans lequel j'ai voulu
tout retracer
au risque d'en faire un livre trop dense et trop fourni, mais au moins on pourra retrouver les détails tels que je les ai vécus. Hein, évidemment, c'est une vision un petit peu, comment dire, individuelle.
Hein, oui, bien sûr, personnelle.
Je pense que j'ai fait en sorte que ça soit un document d'archives aussi, en essayant de brancher l'histoire au tout début des éléments qu'on pouvait disposer. Quoi. Et je me suis rendu compte en écrivant ce livre que d'écrire une aventure comme ça, c'était évidemment une aventure naturaliste, biologique, enfin il y avait des aspects très proches de la nature, mais très vite je me suis rendu compte que je parlais surtout d'histoire humaine, quoi, et d'évolution sociétale. Et je me suis rendu compte comment. Parce que pour raconter l'histoire longue qui permet d'aller des origines connues, les premiers fossiles trouvés, enfin les fossiles les plus anciens trouvés, jusqu'à cette idée de réintroduction, on voyait apparaître ici ou là des personnages révélateurs du rapport homme, faune sauvage, via le bouquetin. Avec cette fois la chance d'avoir affaire à un animal qui ne posait aucun problème à l'homme parce qu'il n'est pas en compétition avec lui. Il ne pâture pas là où vont les troupeaux. Il n'attaque jamais l'homme. Il n'est pas carnassier, il n'est pas carnivore, il n'est pas dangereux. Et pourtant, c'est une bête persécutée depuis les origines. Mais alors, c'est encore mieux, il est persécuté et admiré.
Ouais.
C'est-à-dire, la même personne le tue et l'admire. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est le cas pour même beaucoup d'espèces.
Si vous ouvrez les vannes aujourd'hui, vous allez trouver des milliers de gens qui sont capables de venir tirer les bouquetins de Cotteret, parce qu'ils ont de belles cornes. Alors, ils feront la photo d'abord, pour pouvoir la photo de la bête vivante, parce qu'ils trouvent ça très beau, vivant aussi quand même. Hein. Faut pas leur enlever ça. Mais ils mettront ensuite la bête naturalisée, ou au moins sa tête avec ses cornes, dans le salon. Et ça, c'est le trait du bouquetin intéressant pour décrire cette évolution sociétale. Un animal pas dangereux, que l'homme à la fois adore et veut tuer, et vous regardez dans l'histoire comment ça se matérialise. Et vous trouvez quoi? Alors vous trouvez d'abord Gaston Phébus, au Moyen-Âge. Extraordinaire. La découverte. Gaston Phébus, l'anti-personne dans tous les domaines, quoi. C'est un chasseur, mais il chasse comme on va à l'église. Pour lui, la chasse, c'est un art poussé dans les extrêmes les plus incroyables. Dans toutes les techniques. Bon, tout ça, on le sait parce qu'il a écrit un livre magnifique, très bien illustré, magnifiquement illustré, avec tellement de détails qu'on voit apparaître un homme totalement ambivalent. Donc, tout à fait ce qu'il faut pour le bouquetin. Un adorateur de la chasse et un adorateur des espèces sauvages. Parce que s'il n'avait pas adoré les espèces sauvages, il ne serait pas embêté à décrire le rude du bouquetin, comment les petits étaient élevés par leur mère. Pour chaque bête qu'il a chassée, Dieu sait qu'il en a chassé beaucoup, il décrit à la fois tout le comportement et la manière dont il faut le faire cuire. C'est extraordinaire. Et les images sont d'une beauté incroyable. Naïve, comme on les faisait au Moyen-Âge, mais en même temps, avec des détails qui ne trompent pas. Et vous voyez, alors là, toute l'ambivalence humaine, et vous voyez comment, à cette époque-là, on perçoit les choses. Avec juste un aspect important, c'est qu'au Moyen-Âge, à son époque, il dit le bouquetin, il y en a partout. Et ça, on avait besoin de cette référence-là, parce qu'on n'en savait rien. Il disait, ben, dans une journée, on peut avoir plus de 100, par exemple. Et puis alors là, un grand vide. Toute l'époque historique qui suit, on ne parle plus jamais du bouquetin. Plus du tout. On ne sait pas s'il y en a beaucoup, s'il y en a plus. Et puis arrive l'époque des chasseurs anglais qui viennent sur Pau, en villégiature, qui s'ennuient beaucoup, qui sont ce qu'on appelle des sportsmen, qui aiment les exploits, qui vont chasser le tigre au Bengale, qui sont manifestement très éduqués, qui lisent beaucoup, qui font salon, comme on le faisait à l'époque. Et puis un jour, on leur apprend qu'à Odessa, là-bas, il y a un animal incroyable, un bouquetin. Ils ont vu les mêmes quelque part dans l'Altaï, parce qu'ils en ont été entués aussi. Et on leur dit, c'est un animal incroyable, on le voit que très peu, et il vit dans un endroit inexpugnable, enfin très, très mystérieux, très sauvage. Pour eux, c'est tout ce qu'il faut pour faire un beau trophée, quoi. Mais là, important, des hommes éduqués, on leur dit, il ne reste plus que quelques-uns là-bas, et leur seule idée, c'est d'aller les tuer pour faire un trophée. Mais ils ne sont pas méchants, hein, mais ça ne leur vient pas l'idée. Ils auraient pu se dire, oh là là, mais il n'y en a plus que 4 ou 5, mais on n'y touche pas. On va payer, nous, puis qu'ils ont de l'argent, pour faire une réserve autour. Non, non, non. Pendant un demi-siècle, ils font tout ce qu'ils peuvent pour aller capturer les derniers bouquetins. Alors certains diront, oui, mais vous avez vu, c'était des grands esthètes, ils ne tiraient que les grands mâles. Pensez-vous. Tout ce qui passait sous leur fusil était tiré. Alors évidemment, pour ça, ils avaient besoin de guides qu'ils prenaient à Gavarnie. Ils se sont mis en place des systèmes de tour opérateurs. On allait chasser Odessa en passant par le col de Bouchareau, payer à la fois le guide de Gavarni, mais on payait aussi un droit de chasse au village de Torla, qui en a fait sa rente pendant quelques temps. Et pendant un demi-siècle, on a exterminé les derniers sans se poser de questions. Voilà. Et puis vous arrivez comme ça, un peu plus tard, à quelques personnes qui lèvent le doigt, mais qui disent « mais ça va pas ça, hein. Vous êtes en train de tuer les derniers d'une espèce magnifique, le bouquetin des Pyrénées. » Et c'est des gens, c'est pas un hasard, ils sont pas d'ici. C'est Maurice Gourdon, qui est de Nantes, qui est géographe, naturaliste, herboriste, qui vit sur le Bagnères de Luchon, et qui hurle sur tous les toits que c'est un massacre, que c'est abominable. Et il réveille les consciences, et en 1913, on arrête la chasse au bouquetin. Et puis très vite après, 1918, on crée le Parc d'Odessa. Sauf que c'est trop tard. Il y en a si peu que ça disparaît de toute manière. Ça a pris du temps, hein. La dernière femelle est morte en l'an 2000. Et donc, entre-temps, vous voyez que depuis 1980, déjà, on battait le fer pour mettre en place une réintroduction. Et puis, vous voyez arriver des gens comme Célestin Passé, guide de chasse, Buxton, chasseur anglais. Vous voyez, des personnages qui, chacun, représentent une manière d'être par rapport à ça, quoi. Et puis je me dis, ben vous voyez arriver Jean-Paul Kramp sur la fin de l'histoire, et puis après moi, il y aura quelqu'un d'autre qui verra les choses différemment, forcément. Parce que la personne qui vient après, elle va en voir partout, elle va le voir abondant, elle va le voir...
Vous avez peur, ça, que peut-être ça en reparte? Alors aujourd'hui, il y en a quand même plus de 400, c'est ça?
Oui,
dans les,
plus.
Dans les,
500 probablement, on ne sait plus trop, parce qu'il y en a eu de la chaîne Ariège aussi.
Est-ce que vous avez peur, vous, que peut-être plus tard dans l'histoire, on revienne à quelque chose? Ah ben, il y en a beaucoup, ben, repartons les tuer. Il y a un retour en arrière, parfois, dans le rapport avec la nature.
C'est l'apanage de l'âge, peut-être, hein, même si je ne me considère pas comme un vieillard, mais s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que l'être humain est un animal très versatile. Et puis malheureusement, on a des exemples éloquents, comme la Suisse. La Suisse a pleuré auprès de l'Italie pour obtenir des bouquetins, parce qu'eux avaient cassé les leurs, il n'en restait plus. Il y en avait en Italie pendant un siècle. Ils ont tout tenté, toutes les démarches possibles. Ils ont eu les mêmes refus avec l'Italie que nous, on a pu avoir les refus avec l'Espagne. Finalement, ils s'en sont sortis en les dérobant, des cabris. Et ils ont petit à petit mis en place des élevages, et ils ont ensuite des animaux qu'ils ont ensuite relâchés dans la nature. Ils ont fini par obtenir des populations de bouquetins véritables, sauvages, et ils doivent avoir maintenant 30 000 bouquetins en Suisse. Mais très vite, ils se sont rendus compte que tous ces bouquetins qui mouraient sans qu'on en fasse rien, c'était peut-être un peu dommage, tout ça, et puis... C'est vrai que les bouquetins, ça broute quand même, mais des fois, les sapins, au lieu de pousser bien droit, il a été frotté par un bouquetin. Vous ne croyez pas qu'il y en a trop? Enfin bon, bref, ils sont arrivés à tirer dedans, mais en tirant curieusement que les mâles porteurs de grandes cornes, parce que, bon, pourquoi, j'en sais rien. Et puis, aujourd'hui, on est arrivé à quoi? À ce que des sociétés de chasse suisses ont complètement dérapé, ont mis en place des systèmes de tir de bouquetins, plus ou moins occultes, plus ou moins déclarés, dans lequel on voit des riches clients américains venir tirer un gros bouquetin à 15 mètres, boire le champagne avec une belle photo, avec le guide de chasse qu'on a sûrement généreusement arrosé d'un bon pourboire au départ. Lesquels bouquetins, on les a tirés là en mettant du sel pendant 2 ou 3 mois avant, donc pour être sûr de son coup. Et puis le bouquetin n'a pas attendu qu'il ait 15 ans, hein, même s'il a 7 ans, comme le montre la photo. Bon, après tout, il a de belles cornes, on va pas se priver, quoi. Et puis, on a même droit à la bise du chasseur, qui n'est autre que Miss Nebraska, qui, c'est vrai que sur un fond de montagnes enneigées, avec son propre relief à elle, si j'ose dire, ça a un certain charme, je dirais. Et puis, sa carabine est de dernier cri, donc... Voilà, donc je me dis, bon, c'est jamais gagné, quoi, finalement. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les populations de vallées étaient très partantes pour ça, mais je sais bien ce que pensent certains. Hein. Les générations futures auront à réfléchir et à agir. Les bouquetins seront là, à eux de voir si on les garde ou si on les remassacre une autre fois.
Qu'est-ce que vous, les montagnes, vous apportent Si on enlève la question juste des animaux, qu'est-ce que vous, les montagnes, vous avez toujours vécu au milieu de ces montagnes?
Je ne peux pas vivre en dehors des montagnes. Ça m'arrive, hein, puisque je suis même New-Yorkais régulièrement, puisque ma petite fille est là-bas, donc je suis papy New York. dans
c'est pas le même environnement.
Les rues de Brooklyn, les allées de Central Park n'ont plus de secret pour moi. J'avoue que j'y trouve certaines curiosités intéressantes à voir, hein, c'est indéniable. Les tours les plus hautes de Manhattan ne remplacent pas le Grand Barbate ou le Vignemale. Non, je plaisante. Quand je suis en plaine, je cherche désespérément derrière le rideau des arbres des montagnes qui dépassent. Je suis habitué à un paysage en 3D. Pour moi, une plaine, c'est un paysage en 2D. Alors, vous savez, dans une image, la différence qu'il y a entre le 3D et la 2D. Et puis, regardez aujourd'hui, le haut est blanc, le bas est vert, il va se passer plein de choses, là, il y a des nuages qui apparaissent. Demain matin, je vais savoir s'il a reneigé sur le sommet du Mokapera, là-bas. Donc, non, c'est un milieu tout à fait... Puis le bruit des cascades, le chant des oiseaux en montagne, le bruit des cloches, ça remonte du passé. Les sonnailles des brebis, ça remue quelque chose au fond des tripes que j'effacerai jamais complètement. Non, ce que je crains le plus, c'est de ne plus pouvoir y aller, quoi. Mais il faudrait bien que ça m'arrive, hein, parce qu'elles vont pas s'aplanir pour moi, quand même. N'oublions pas qu'elles ne sont pas à nous. C'est nous qui sommes à elles.
C'est très beau, ça. Je trouve que c'est rare d'entendre ça.
Ah, ça me fait beaucoup râler les gens.
On a beaucoup cette accaparation de...
C'est énorme. C'est le vice. Enfin, il faut se sentir d'un pays, hein, mais on peut se sentir d'un pays sans... Comment dire, en lui appartenant, et pas l'inverse, quoi. C'est-à-dire que c'est à nous. Mais qu'est-ce qui est à nous? Les montagnes, là, ben non, elles ne sont pas à nous. C'est de la rigolade, quoi. Enfin, on a le droit d'y faire près de son troupeau, peut-être d'y chasser pour certains, mais c'est un privilège qu'on a. Mais et puis nos petits problèmes, les Pyrénées s'en foutent complètement. Elles en ont vu d'autres. Elles savent très bien que tôt ou tard, elles vont devoir s'aplanir aussi, mais elles savent qu'elles ont le temps et que nous, dans tout ça, on représente epsilon d'un épisode rigolo d'une espèce qui a dérapé.
Mais en tant qu'humain, pour vous, c'est quand même important de participer, de contribuer à cette, oui, à cette nature, à la... Oui. À la conserver et voilà, pas... Je vous entendais dans une interview, vous dites souvent on a l'impression que quand on parle de la nature, on est en dehors de la nature, nous les hommes. Et que c'est un des plus gros
ça c'est l'autre
problème.
Péché, l'autre gros péché, c'est comme celui qui consiste à dire que les Pyrénées sont à nous. L'autre péché important qu'il faut combattre, c'est de penser qu'on ne fait pas partie de la nature. On est dans ce tout-là, on en est partie intégrante. Avec... Par contre, et ça c'est un peu Michel Serres qui m'a ouvert les yeux là-dessus, des choses très spéciales que n'ont pas les autres animaux, par exemple, c'est que nous, on a pris conscience de notre situation. Alors, peut-être pas complètement, peut-être pas dans le détail, mais on sait une chose, c'est que la disparition des espèces, elle est entre nos mains aujourd'hui. On a la capacité de les faire disparaître. C'est nouveau d'avoir la capacité et surtout d'avoir pris conscience. Et le jour où on en prend conscience, on devient responsable. Si ça disparaît, alors qu'on savait que ça pouvait disparaître et on savait comment il fallait faire pour pas que ça disparaisse, on a des comptes à rendre pour les générations suivantes. C'est-à-dire que si dans un siècle, tel ou tel truc a disparu alors qu'on n'a rien fait, ils pourront se dire, ces grands cons-là, ils savaient, et ils n'ont rien fait. Et ça n'existait pas avant. Ouais. Les gens qui ont foutu en l'air les bisons d'Amérique, ils n'avaient pas cette tête-là. Et cette révolution-là, cette prise de conscience-là, ça c'est nouveau. Et là, moi, je mise beaucoup, et surtout avec les jeunes, parce que là, il faut des jeunes cerveaux, c'est pas des cerveaux fatigués comme le mien déjà.
Mais il faut faire coopérer les cerveaux.
Ouais, puis alors, c'est là où on voit que les nouvelles technologies, bon, c'est vrai qu'on voit ce qu'elles apportent de négatif avec tous les réseaux sociaux et tout ce que ça peut apporter comme désinformation. Mais c'est aussi les seuls moyens vraiment efficaces qu'on peut mettre en place, même en termes de motivation et d'animation associative, c'est tellement puissant. Par contre, il reste à trouver le moyen de traiter l'information, de l'interpréter, parce qu'il y en a tellement, elle est souvent fausse, elle est souvent déviante, c'est là où je plains un peu les jeunes, comment font-ils faire pour faire le tri là-dedans, d'autant qu'on en a fait des citadins qui en plus sont coupés de la nature autrement que par un week-end au ski ou, ouais, ou une sortie en canyoning, quoi. C'est pas là qu'on prend contact. Tout ça pour dire que moi je vais discuter plus facilement des bouquetins avec un berger, un vrai, il va me comprendre tout de suite qu'avec un citadin où il faut expliquer de A à Z de quoi il s'agit et qu'il va avoir cette image un peu trop sensible qui va les écarter de la réalité de la nature qui n'est pas un monde de bisounours. C'est la nature, c'est un monde, c'est une jungle où il faut être fort pour exister. On est éliminé si on est faible, on ne se reproduit pas si on n'est pas suffisamment puissant. Donc c'est une loi dure. Donc,
c'est bon à rappeler.
Il faut le rappeler, ouais. Ouais. C'est ça qui est compliqué un petit peu.
On arrive sur les petites questions de la fin. J'ai mon petit crible de 3 questions.
Ouais.
Si je vous demande votre endroit préféré dans les Pyrénées.
L'endroit préféré, j'en ai beaucoup, ouais, mais oh, j'ai quelques rochers creux là, en face du Vignemale, un peu haut. La zone que j'aime, c'est la zone subalpine là, la limite forestière supérieure. Je préfère de beaucoup les zones granitiques ou le rocher est sculpté. Qu'il me pardonne ceux qui vivent dans ces pays-là, mais les pays calcaires, moi, le calcaire, c'est pas une vraie roche, quoi. C'est quand même passé par un fond de marin, des coquillages, tout ça. Pour moi, le vrai rocher, il vient du fond, et c'est le granit, quoi. Donc, un joli rocher tourné vers le Vignemale, avec toute la vallée en dessous, où on voit très peu de traces humaines, hein, et puis environné de bouquetins, d'isards, un renard qui vous passe à 15 mètres parce qu'il ne vous a pas senti. Vous pouvez y passer des heures et c'est très difficile d'en repartir, quoi. Donc j'ai quelques endroits comme ça où il m'arrive de m'endormir d'ailleurs. Hein. J'ai fait des siestes mémorables.
Si vous avez les Pyrénées, c'est aussi de la bonne nourriture quand même. Si vous avez un endroit à manger pour recommander.
Oh.
On aime bien s'arrêter au détour d'une randonnée.
Il y a plein d'endroits où on peut très bien manger, mais je ne suis pas gastronome du tout. Moi, je pars souvent en montagne avec une banane ou quelques fruits secs. Ouais. J'ai horreur de transporter. J'ai horreur surtout de préparer mon sac le matin ou la veille. Mais les bons endroits ne manquent pas et les bons produits aussi, ça, c'est sûr. Mais globalement, je trouve qu'on parle beaucoup trop de bouffe. Arrêtons.
Non, mais ça, c'est quelque chose que j'adore quand on discute avec des gens qui font de la montagne depuis très longtemps, et après les anciennes générations, c'est que c'est ça, vous partez avec juste un bout de fromage ou des raisins secs, et alors que voilà, on a tout ce truc de parfois il faut partir avec assez de ressources, et
ça. La manière de pratiquer la montagne peut évoluer beaucoup dans la vie déjà. Dans ces histoires de casse-croûte, évidemment que c'est mieux de manger un peu quand on est là-haut, mais moi il m'arrive souvent d'oublier de manger complètement, je n'y pense pas dans la journée. J'oublie aussi de boire, ça c'est moins bon, ouais. Parce qu'on sait que c'est pas terrible. Alors moi j'ai de quoi manger pour tromper ma faim, comme je dis, et souvent comme je fais de la photo et tout ça, je grignote vite fait sans m'asseoir ni quoi que ce soit. C'est vraiment pas le truc sur lequel je m'étends beaucoup. Mais je trouve que globalement, alors qu'il est démontré qu'on crève de trop bouffer, dans les émissions de télé et partout, bon, on en fait trop sur la bouffe, c'est sûr, quoi.
C'est d'accord. Et si vous avez une ressource, ça peut être un livre, un documentaire, quelque chose qui vous a marqué sur les montagnes, les Pyrénées ou les animaux sauvages et que vous pourriez partager.
Alors, c'est le défaut des montagnards. Vous savez, quand vous avez fait une journée de montagne, c'est vrai que j'ai ma table de chevet croule de livres.
Et vous dormez.
Actuellement, je suis sur Moby Dick de Melville, vous voyez. Donc, mais en général, à la troisième page, je sombre sous la baleine, quoi. Avec mon canot brisé, quoi. Il existe beaucoup de littérature, probablement trop, parce que c'est comme pour les formations sur Internet, il faut faire son tri. Il y a de la bonne littérature et de la mauvaise. Je suis assez séduit par les écrits de Sylvain Tesson, par exemple. Quand je compare, vous voyez, c'est un personnage aussi qui quelque part traduit son époque. C'est un citadin pourtant, mais un citadin qui est sorti, il est sorti de ses murs, lui. Il a su en sortir alors que tout le retenait chez lui. Mais quand il a traversé l'Himalaya à pied, quand même, déjà, avec juste une paire de chaussettes et, j'allais dire, un slip, celui qu'il portait, parce qu'il n'avait pas de rechange, avec son copain Alexandre Poussin, ça on le fait pas sans un minimum de motivation, hein, parce que aller du Bhoutan au Cachemire à pied, bon, et que il se rend compte en accompagnant Meunier voir la panthère des neiges, que j'ai eu la chance de voir moi-même en Himalaya, et qu'il se rend compte qu'il a été un gros lourdeau, il a traversé les pays sans rien voir, alors que des milliers de bêtes sauvages le regardaient passer, très belles. J'ai vécu ça dans le Kumbu, au pied de l'Everest, où j'ai vu, moi, les caravanes de porteurs et de guides et de clients monter faire l'Everest, au camp de base, passer au milieu d'une faune magnifique, parce que c'est un pays bouddhiste où on ne chasse pas, et vous avez des animaux à quelques mètres du sentier que les gens ne voient pas.
J'y étais il y a 3 mois, j'ai vécu la même chose. Pas sur l'Everest, mais sur les Annapurna.
Et c'est pareil. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Moi, je n'allais pas au camp de base de l'Everest, qui est une véritable ordure. C'est un tas d'ordures. Je sortais du sentier et j'avais les animaux, les porte-musques à quelques mètres. J'avais les lophophores, là, qui sont des espèces de cols de bruyère resplendissants, très beaux. Et j'ai eu la panthère des neiges pendant une heure de temps, à quelques dizaines de mètres, avec des amis. Donc... voilà, ce genre de littérature qui est l'honnêteté d'un homme à raconter ses propres défauts, ses propres faiblesses, ça me plaît bien. J'aurais des choses à discuter avec lui, je pense, hein, parce que je sais qu'on lui fait des misères en ce moment.
Oui.
Et après, je pense que quand on écrit et qu'il faut écrire, on doit être tenté par certaines coquetteries. J'éprouve moi-même beaucoup de plaisir à écrire avec ce livre où j'ai raconté mon histoire sur le Bouquetin.
Je le mettrai en lien dans les notes.
J'ai vidé mon sac et ça m'a fait un bien fantastique, quoi. Et puis j'ai découvert le plaisir de me rappeler et découvrir que la mémoire, que dans la tête on avait un disque dur qui n'oubliait rien de notre vie. Il suffisait de trouver le bout de fil et on pouvait tirer sur la pelote après et tout venait avec une foule de détails. Ça a été très agréable pour moi, je vais m'y remettre, je pense. Et je vous dis déjà le titre, ça s'appellera « Être aux Pyrénées ».
Génial, j'ai hâte que ça sorte.
Et donc voilà, littérature pour moi, c'est ce qui m'a sauvé au départ, hein, parce qu'à l'école primaire, je lisais beaucoup. J'ai pas fait d'études, donc je n'étais qu'au certificat d'études. Et j'ai vu que je pouvais discuter après avec des gens qui avaient fait beaucoup de facs, et j'ai aucun complexe de ce côté-là, vraiment pas.
Génial. Ben, merci beaucoup pour cet entretien.
C'était un plaisir.
Passionnant.
Merci. On verra.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur Spotify ou une note sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Et puis bien sûr, à partager cet épisode autour de toi et à m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu en as pensé. J'ai aussi récemment ouvert un financement participatif sur Tipeee si tu souhaites me soutenir financièrement dans ce projet. Le lien est dans les notes du podcast ou sur mon Linktree. Chaque petit geste peut tout changer, alors je t'invite vraiment à aller y jeter un œil. Et si tu souhaites en savoir plus sur le bouquetin, je mets dans la barre de description également le lien vers le livre de Jean-Paul qui s'appelle « Le bouquetin aux Pyrénées, Odyssée d'une espèce retrouvée ». Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Allez chats !